C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler de santé maintenant parce que, oui, il y a les incendies de forêt. Qu'est-ce que ça cause, les incendies de forêt? Ben ça émet dans l'air ce qu'on appelle des particules fines. Ça descend un peu partout dans les villes du Sud. Donc, le changement de couleur que vous voyez dans le ciel, dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est dû à ça. Et c'est invisible, mais ça peut causer des problèmes pulmonaires. On va parler de tout ça avec Dr. Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique à Laval, et aussi David Kayser. Il est directeur médical adjoint à la direction régionale de santé publique de Montréal. Messieurs, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
M. Kayser, bonjour.
Bonjour.
Oui, je commence avec vous, Dr. Trépanier. D'abord, quels sont les avis que vous avez lancés à la santé publique de Laval pour que les gens se protègent?
Je comprends que la situation qu'on vit actuellement est exceptionnelle. Là, on a un nuage de fumée important qui nous descend de l'Abitibi. Alors, c'est une situation de smog qui est inhabituelle. Donc, le ministère de la Santé nous a alertés et on a décidé de relayer des messages là auprès de la population, particulièrement auprès des personnes vulnérables. Mais compte tenu de la situation qu'on vit actuellement, je pense que tout le monde doit se sentir concerné, là. Donc, les messages, de façon générale, consistaient à réduire le plus possible les activités qu'on passe à l'extérieur. Évidemment, l'accent était mis sur les personnes les plus âgées, les personnes plus jeunes, les femmes enceintes, qui sont des personnes qui sont considérées davantage vulnérables. Évidemment, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, respiratoires, cardiovasculaires également. Mais les personnes asthmatiques, qui ne se considèrent pas nécessairement comme des malades chroniques, mais qui sont vulnérables dans des situations comme celles qu'on vit actuellement aussi.
Mais si je comprends bien, vous avez envoyé des directives aussi aux CPE et aux écoles du territoire de Laval.
Bon, maintenant, ce qu'on a fait, après avoir relayé des messages là, pour la population générale, on a été invité à entrer en contact avec nos partenaires dans différents réseaux. Donc, la petite enfance, les CPE, les milieux scolaires, donc école, centre de services scolaires, la commission scolaire anglophone également. On a émis des recommandations à l'effet qu'on devait, dans la mesure du possible, restreindre des activités à l'extérieur et donc, si possible, faire des activités à l'intérieur. Donc, c'est les directives là, qu'on a émises hier. Dans la perspective où les valeurs qu'on avait de particules fines, telles qu'elles étaient prévues par Environnement Canada, étaient de l'ordre de très importantes, donc une qualité de l'air de mauvaise qualité qui faisait en sorte que c'était préférable là, de garder les enfants à l'intérieur aujourd'hui.
OK, je me tourne maintenant vers un de vos collègues à la santé régionale de Montréal, de la santé publique de Montréal, Dr. David Kayser. Dr. Kayser, est-ce que la santé publique de Montréal a émis les mêmes directives pour les CPE et les écoles qu'on a pu constater à Laval?
Enfin, on va dire la base est la même, la base de dire on est dans un contexte de mauvaise qualité de l'air. Juste le mettre en contexte, à Montréal, on a une quarantaine de journées de mauvaise qualité de l'air, bon an, mal an, puis peut-être un tiers qui sont l'été. Alors, en général, on est habitué à gérer des journées de mauvaise qualité de l'air, puis là, on a une situation particulière qui est causée par les feux de forêt. Le message qu'on a lancé est sensiblement le même à la base. Après ça, il y a une nuance, et puis vous l'identifiez, c'est qu'on n'a pas donné la consigne à Montréal de garder les enfants à l'intérieur pour, par exemple, la récré, les pauses. Et puis c'est vraiment basé sur les valeurs qu'on a. Les valeurs qu'on a à Montréal, je vais vous donner des chiffres, là, et pour les gens, ça veut dire grand-chose, mais 30 à 40 microgrammes par mètre cube. Le chiffre n'est pas important. Pour nous, c'est pas important. Ça nous met dans une zone où, ce que, comme Dr. Trépanier l'a dit, les personnes plus vulnérables doivent prendre des mesures, c'est sûr. Puis après ça, pour la population générale, on s'attend pas à ce qu'il y ait des effets importants sur la santé. Est-ce que les gens doivent se sentir concernés? Oui. Est-ce qu'on veut garder les enfants à l'intérieur dans un contexte montréalais avec ce qu'on connaît sur les écoles, les îlots de chaleur, la ventilation? On a jugé que dans le contexte actuel, c'était pas nécessaire pour le moment.
Dr. Kayser, êtes-vous dans une station de métro?
Non, mais on le dirait. Hein.
OK.
Il y a eu un petit bruit imprévu.
Parfait. Écoutez, je vous pose la question. L'autre bord de la rivière des Prairies, à Laval, la santé publique a envoyé une directive. Santé publique a dit au CPE, a dit aux écoles, gardez les enfants en dedans autant que possible. Pourquoi on n'a pas fait ça à Montréal?
En fait, c'est vraiment notre analyse du risque à Montréal en connaissant notre contexte spécifique, le contexte urbain, ce qu'on connaît sur les écoles, notre connaissance historiquement de comment on est capable de gérer et puis avec une vision globale pour les enfants, ce qu'on souhaite, oui, c'est qu'on limite l'exposition pour les enfants les plus vulnérables. Ça fait partie du message qu'on a donné aux écoles. C'est très clair. Un enfant asthmatique, c'est tout à fait raisonnable qu'une journée comme celle-ci, cet enfant-là puisse rester à l'intérieur, puisse avoir des mesures spécifiques.
Moi, j'ai été contacté, docteur Cazin, j'ai été contacté par une mère qui a posé la question au CPE, à savoir, écoutez, allez-vous laisser sortir les enfants aujourd'hui? Le CPE ne savait pas trop quoi faire. Est-ce que vous pensez que la santé publique de Montréal a bien communiqué là-dessus, les consignes?
En fait, on a été en lien avec nos partenaires hier, aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Là, mes collègues ont été directement en lien avec nos partenaires du milieu scolaire. C'est sûr que dans le contexte...
Mais les CPE...
Les CPE également. Pas aujourd'hui, les rencontres aujourd'hui étaient avec le milieu scolaire. Je veux dire quand même que je pense que vous soulevez quelque chose d'important. D'abord, on a une situation aujourd'hui à Montréal qui ne se compare pas à ce qui se passe en Abitibi. Puis nos pensées sont avec eux, hein, c'est important. Et puis ça fait que au niveau provincial, on a des messages qui sont émis par le ministère, sont importants et qui visent à avoir une base.
Après Dr. Kayser, je vous arrête. Allez. Je comprends rien à ce que vous me dites.
Parfait. Allez-y, je suis prêt.
Écoutez, Laval, c'est pas à 75 kilomètres de Montréal. Puis à Laval, ils ont envoyé des consignes claires au CPE et des consignes claires aux écoles. Là, vous me parlez de parler aux partenaires, vous me parlez d'analyse de risque. Christy, il y a juste la rivière des Prairies entre Laval puis Montréal.
Oui, il y a des différences quand même dans les concentrations qu'il y a eu dans les 24 dernières heures. Alors ça, c'est sûr qu'on suit directement ce qui se passe. Et par la suite, tout ce que je peux vous dire, c'est oui, je crois qu'on a clairement envoyé des consignes sur notre analyse du risque qu'on jugeait pertinent pour la population montréalaise. Je peux pas parler pour Laval, c'est certain. Je peux parler pour notre population, nous.
OK. Votre position sur les gens qui ont des problèmes d'asthme, les gens qui ont des problèmes respiratoires, les personnes qui ont une maladie chronique, est-ce que ces personnes-là devraient rester en dedans d'abord et avant tout?
Le message général, c'est d'éviter d'aller à l'extérieur si on le peut. C'est sûr que si on a... Il y a des gens qui ont plein de choses. Ils travaillent, ils vont voir leur médecin, peu importe. Et puis, c'est sûr qu'il y a des choses que les gens peuvent faire pour se protéger. Puis, là, il y a un message important, c'est de dire les masques chirurgicaux, les masques de procédure, ça ne change rien pour les particules fines.
Puis le N95...
Exactement. Alors, les gens qui ont des maladies respiratoires, qui doivent sortir dehors, c'est sûr que la N95, ça va faire une différence de 10 fois. Hein? Alors, c'est très efficace, si c'est bien mis, pour les particules fines. Alors, N95, très efficace, puis c'est une mesure tout à fait pertinente pour les gens à risque.
OK. Parfait. Merci, Dr. Kayser. Je reviens à Dr. Jean-Pierre Trépanier, qui est directeur de la santé publique à Laval. Dr. Trépanier, qu'est-ce que fait que chez vous, vous avez décidé dans votre analyse d'avertir les CPE et les écoles à Laval que c'était mieux de garder les enfants à l'intérieur?
Mm-hmm. Ben, ça peut paraître étonnant des fois là, qu'il y ait des situations différentes à Montréal et Laval. Je peux pas parler pour celle de Montréal, mais à Laval, nous, on a constaté que les prévisions qui avaient été émises par Environnement Canada nous mettait dans une zone où il y avait des risques pour des populations plus vulnérables, puis on a considéré les enfants comme une population plus vulnérable. Alors, c'est la raison qui nous a fait émettre cet avis-là hier à titre préventif, parce que, évidemment, il peut y avoir ensuite des variations là, dans les taux de particules fines qu'on mesure dans l'air. D'ailleurs, si c'est pour rassurer les gens, là, ce qui était prévu hier, ça s'est pas avéré être aussi élevé que ce qui était prévu. Alors, tant mieux. Mais nous, de manière préventive, il fallait qu'on émette une consigne claire. Donc, on l'a fait. Et maintenant, on a des prévisions pour les jours à venir là, qui sont bien meilleures. Donc, on va être en mesure de lever cette recommandation-là à partir de ce soir. Et ça devrait même déjà être en ligne là, sur notre site web.
OK. Et j'ai beaucoup de questions, Dr. Trépanier, sur les climatiseurs, sur les échangeurs d'air. Est-ce que vous avez envoyé des directives, des consignes là-dessus?
Oui. Ben en fait... qui est important, là, c'est de pas faire entrer des particules dans des endroits clos. Donc, dans les écoles, on souhaitait pas qu'il y ait des particules fines, dans les CPE non plus d'ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle la recommandation faisait en sorte là, qu'on suggérait de fermer les fenêtres et de faire recirculer l'air à l'intérieur. Évidemment, là, on le sait, ça fait en sorte de monter un peu les taux de CO2, mais d'une manière préventive, ce qu'il fallait privilégier, c'est vraiment ne pas faire entrer les particules fines dans les écoles et les CPE.
Merci d'avoir été avec nous. C'est très clair ce que vous nous avez expliqué. Merci, Dr. Trépanier.
Merci.
C'était Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique à Laval, et aussi parallèlement Dr. David Kayser, directeur médical adjoint à la direction régionale de santé publique de Montréal. Juste 30 secondes, on va revenir sur ces deux entrevues. J'ai interrompu tantôt Dr. Kayser, puis je trouvais que c'était pas clair. Je m'excuse, c'était pas clair. Et au-delà de ça, au-delà des mots choisis, vous avez deux santé publiques qui sont voisines, Laval, Montréal. Je l'ai dit, c'est pas à 75 km de distance. Il y a un plan d'eau, la rivière des Prairies, qui sépare ces deux territoires-là. Et on a des directives complètement contraires. Ce à quoi ça me fait penser, c'est le capharnaüm de directives qu'on pouvait avoir de nos santé publique au pluriel pendant la pandémie. Le fédéral conseillait une patente, le provincial en conseillait une autre, puis après ça, tu avais des directions générales régionales de la santé publique qui avaient d'autres positions. S'il vous plaît, au nom de la clarté, puis je comprends là que c'est pas une urgence qui va durer tout l'été, au nom de la clarté, accordez donc vos flûtes, accordez vos messages. C'est un peu absurde qu'à Laval, on puisse contacter les CPE, les écoles primaires, les écoles secondaires pour donner des directives et qu'à Montréal, on n'ait pas les mêmes directives. Encore une fois, il n'y a pas une grande distance, la dernière fois que j'ai checké, entre Laval puis Montréal. Le premier ministre François Legault a peut-être parlé un peu vite hier quand il a dit que la SOPFEU, les autorités allaient peut-être devoir laisser brûler le village de Clova, un peu au nord de Latuc. Pour le moment, semble-t-il que la SOPFEU a réussi à maîtriser l'incendie. La municipalité de Latuc a un message pour ses habitants. Hélène Langlais est responsable des communications pour la ville de Latuc. Madame Langlais, bonjour.
Bonjour.
Donc Clova est sauvée?
Ben pas à 100% parce qu'on sait jamais comment un feu de forêt peut réagir, mais présentement là, les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui du terrain sont très bonnes. Le feu est présentement contenu et les vents soufflent du bon côté, donc ça s'éloigne du village de Clova présentement.
OK, Clova, ça fait partie de Latuc.
Oui, Latuc, c'est une des plus grandes villes au Québec, donc c'est 30 000 km², c'est aussi grand que la Belgique, fait que c'est grand comme un pays. Et le secteur de Clova, c'est le secteur qui est le plus au nord de notre municipalité, à la frontière avec l'Abitibi.
OK, et là, si je comprends bien, il n'y a plus personne à Clova, sauf les gens qui combattent les incendies.
Oui, exactement. Mais ça, c'est ce que ça devrait être. Le problème qu'on a présentement, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé d'aller porter main forte aux équipes comme ça, sans avoir d'expérience, sans avoir l'autorisation de le faire. Alors là, ils se sont rendus compte aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes sur le territoire qui devraient pas être là. Donc, si on a un message à passer à la population en ce moment, c'est que si vous voulez vraiment aider les équipes qui combattent les feux en forêt, c'est très simple, restez chez vous.
Mais est-ce que le problème est avec quelle ampleur? Y a-t-il des dizaines de personnes qui sont allées?
Ben selon les informations qu'on a, il y a quand même beaucoup de monde. Puis là, ça commence à inquiéter les équipes qui combattent les feux parce que un feu, ça peut réagir de différentes façons. Puis eux autres, ils sont concentrés à 100% à combattre l'incendie. Fait qu'ils n'ont pas le temps de gérer qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu à son chalet pour voir si son chalet était correct ou non. Fait que c'est très important de respecter le décret.
Juste pour comprendre, Madame Langlais, là, les gens allaient aider les pompiers ou ils allaient essayer de...
Il y en a qui se sont présentés au village puis qu'ils ont dit, nous autres, on est venus prêter main forte. Puis ils ont retourné de bord puis ils ont dit, retournez chez vous parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de vous autres. Fait que c'est un message qu'ils nous ont demandé de passer. On sait que les gens ont des bonnes intentions. Ils veulent donner un coup de main, mais c'est vraiment pas une bonne idée. Vous nuisez plus que vous aidez.
Comment vous avez pris ça quand vous avez entendu le PM dire que, bon, ben, va falloir laisser Clova brûler hier?
Ben, on peut comprendre, tu sais, mais on peut comprendre que le premier ministre, il voulait expliquer qu'il y avait des choix à faire. Ça, on peut le comprendre. Mais nous, on est directement connectés avec les gens qui sont directement sur le terrain. Fait que l'information qu'on a, on sait que c'est la bonne, puis on sait que c'est l'heure juste. Fait que nous, c'était pas du tout ces informations-là qu'on avait. On savait qu'il y avait des chances de pouvoir sauver le village. Mais on peut comprendre que des fois, quand il y a plusieurs niveaux de communication à aller jusqu'au premier ministre, ministre, ben peut-être que c'était pas la bonne information. Mais nous, on sait que nos gens sur le terrain et les gens de la SOPFEU, jamais ils ont baissé les bras pour Clova, jamais, en aucun temps. Puis on a travaillé fort, puis là, présentement, les résultats sont là. Fait qu'on espère juste que le vent ne virera pas de bord, tout simplement, là, parce qu'on pourrait perdre les acquis, mais les nouvelles sont bonnes aujourd'hui, puis on s'en réjouit.
Bien, Clova survit, saluer et féliciter tous les gens qui s'assurent que le feu se tienne à distance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
À la prochaine. C'était Hélène Langlais, responsable des communications pour la ville de Latuc, dont fait partie le village de Clova, qui est encore épargné par les flammes. Parfait. On va maintenant aller à Bécomo. Carl Marchand de Cogeco Nouvelles est arrivé dans cette ville de la Côte-Nord. Salut, Carl.
Salut, Patrick.
Donc, tu étais à cette île hier. Là, les évacués ont pu rentrer chez eux. La partie est loin d'être gagnée. Tu es à Bécomo maintenant. Ça se complique un peu là-bas. Là.
Mais à Bécomo, ce qui inquiète là, c'est des postes, un poste de transformation électrique là au nord, donc à l'intérieur des terres, donc pas à proximité directement de la ville, mais tout de même, si ça c'est attaqué par les flammes, ça va causer des problèmes à pas mal de monde parce que c'est une infrastructure centrale. La bonne nouvelle, c'est qu'il pleut depuis ce matin, tant à Bécomo qu'à Sept-Îles. À Sept-Îles, là, il pleuvait pas mal plus et un beau crachin là, que tu sais qui va durer toute la journée, donc ça c'est très rassurant pour les autorités. Mais l'évolution est rapide, puis ceux qui sont arrivés en premier en renfort à Sept-Îles, ce sont des pompiers municipaux, d'abord du coin de Bécomo et des villes pas loin de Sept-Îles. Mais là, ils ont dû revenir dans leur coin justement en raison des feux qui brûlent en haut dans les terres. Ce qui fait que tout le monde va en avoir plein les bras pendant un bon bout de temps, mais il y a une atmosphère qui était quand même spéciale à Sept-Îles hier. Là, on voyait comme pas la mobilisation, mais tout de moins les activités des gros camions de l'armée qui passent en ville, c'est quand même saisissant. Puis, quand on parle aux pompiers aussi, quand les organisateurs des mesures d'urgence, quand ils disaient qu'il a fallu qu'on réfléchisse à évacuer 30 000 personnes, tu vois toute l'intensité aussi, puis la crainte qu'il y avait dans leur visage. Heureusement, ça s'est bien passé.
OK, côté météo, qu'est-ce qu'on sait?
Ben de la pluie pour les prochains jours, pas de la grosse pluie intense, mais tout de même, ça permet ça de d'abord faire descendre la fumée, les particules fines. Donc ça aide à ce que ça soit plus vivable. Mais on sait aussi que ça sera pas assez, Patrick. Ça c'est bien certain. Là, un des gros incendies au nord de cette île, on parle de plusieurs semaines pour s'assurer que ça va être maîtrisé. Puis ça pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'on va faire cet été. C'est-à-dire que les forêts à la grandeur du Québec risquent d'être souvent inaccessibles cet été. Puis ça, c'est, disons que pour le mode de vie ici sur la Côte-Nord, là, c'est un gros challenge. Là.
Merci beaucoup, Carl Marchand. Bon séjour à Bécomo. On va se reparler.
À bientôt.
Parfait. On va aller en Abitibi maintenant. Sébastien Lemire est député d'Abitibi pour le Bloc québécois. Il se trouve présentement dans la ville de Lasserre. C'est dans l'ouest de cette belle région. Monsieur Lemire, bonjour.
Bonsoir. Bonjour, M. Lagacé.
Écoutez, je voulais revenir sur votre publication Facebook de ce matin parce que, bon, évidemment, il y a tout l'aspect combat des incendies, mais après ça, il y a tous les élans de solidarité dans la population. Parlez-moi de ce que vous avez constaté depuis quelques jours là sur le terrain.
Bien, d'abord, moi, j'étais en chambre hier, puis je suis arrivé de nuit pour être présent, pour le constater. Puis effectivement, on se trouve dans un bel élan de solidarité. Puis je veux saluer le travail de la MRC d'Abitibi-Ouest, particulièrement Normand Lagrange, qui a coordonné ce centre d'accueil-là dans lequel les gens, donc des villages de Normétal et de Valparadis au départ. Et maintenant, bon, là, je suis allé faire un tour sur le terrain. Et pendant que j'étais à la Reine, on a vu rapidement l'état de la qualité de l'air se dégrader parce qu'il y a un deuxième feu qui a été allumé et l'état d'urgence a été déclaré. Donc, on ajoute deux autres villages maintenant cet après-midi, mais l'Abitibi-Ouest est mobilisé. Donc, il y a des centres d'accueil autour de la Polino et les repas sont offerts. Le centre aussi communautaire, là, la Maison Saint-André, offre des vêtements pour les gens moins nantis et autres. Donc, la solidarité s'établit aussi dans les familles, les gens ou les amis. Donc, à date, tout le monde a trouvé une place pour pouvoir demeurer, mais évidemment, là, la présence de la Reine et Saint-Lambert qui s'ajoutent aux villes qui ont à être évacuées maintenant, c'est quelque chose qui demeure extrêmement préoccupant. Puis pendant que j'attendais, on m'a informé qu'il y a un nouveau feu qui vient d'arriver dans le coin de la Corne. Donc, ma région qui était un peu comme la petite maison blanche du Saguenay, Lac-Saint-Jean, j'avais l'impression, ma circonscription, elle commence à ne pas être épargnée. Puis évidemment, nous, on n'aura pas la chance de la Côte-Nord, là, ils n'annoncent pas de pluie à court terme. Donc, c'est très, très préoccupant, là.
Dites-moi, vous parlez aux gens sur le terrain, qu'est-ce qui fait que cette année, il y a autant de feux de forêt?
C'est d'abord les températures qui sont élevées et le peu de précipitations, je pense, qui explique ça particulièrement. C'est sûr que l'heure n'est pas autant à poser des diagnostics que l'urgence d'éteindre des feux, mais on se rend compte que c'est pas juste nous au Québec. Hier, dans le débat d'urgence, il y avait des collègues de la Nouvelle-Écosse, des collègues de l'Alberta, des collègues de la Colombie-Britannique, évidemment du Québec, qui prenaient la parole pour pouvoir parler de cette situation des feux. Pratiquement tout le Canada est en train de brûler, donc une réflexion qui est à faire de ce côté-là, mais pour moi, ce qui est important, c'est les actes de solidarité présentement, puis voir tout le travail que fait les pompiers, la SOPFEU, la sécurité civile pour rassurer les gens, s'assurer que les messages de communication passent bien, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à l'heure actuelle.
Monsieur le maire, merci, puis salutations aux gens de votre circonscription et de l'Abitibi-Témiscamingue.
Oui.
À la prochaine.
Et je rajouterais aussi du nord du Québec également. Il y a tout un travail de terrain qui se fait là par ma collectivité.
Bien dit. Merci beaucoup. C'était Sébastien Lemire, député fédéral d'Abitibi pour le Bloc québécois. L'Abitibi-Témiscamingue, il faut le souligner, c'est la région la plus touchée par les feux de forêt. La SOPFEU en comptabilise 78 dans ce coin-là. Il y en a 13 qui sont combattus, on le sait. On doit faire des choix. Et il y a 5500 personnes du nord du Québec et d'Abitibi-Ouest là, qui ont été évacués jusqu'à maintenant. Le ministre du Travail, Jean Boulay, on le sait, a fait adopter un projet de loi la semaine dernière pour limiter et encadrer le travail chez les enfants. La loi va fixer à 14 ans l'âge minimal pour travailler et on va interdire aux jeunes de 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine pendant l'année scolaire. Évidemment, l'objectif, il est bien simple, c'est de protéger les jeunes de l'exploitation et aussi des blessures au travail, leur permettre de se concentrer sur ce que c'est, dans le fond, ce qui compose l'enfance, s'amuser et apprendre. Cependant, il y a des jeunes pour qui travailler à temps partiel dès un jeune âge, c'est pour eux très positif et formateur de leur point de vue et de celui de leur famille. C'est le cas de Léo Roy, c'est un jeune de 13 ans, qui va perdre son emploi dans une petite épicerie de quartier en raison de ce changement législatif. C'est son père, Vincent, qui m'a écrit pour me parler de Léo. Et il est au bout du fil avec son fils, Vincent Roy, et là avec Léo Gendron-Roy. On va commencer avec le père. Vincent, bonjour.
Oui, salut.
Pourquoi vous avez décidé de m'écrire à propos de votre fils Léo, qui travaille déjà à l'âge de 13 ans?
En fait, je pense que c'est très important aussi de mentionner qu'est-ce que ça apporte aux enfants aussi de travailler. Tu sais, on a beaucoup vu dernièrement un peu les côtés négatifs de voir un peu, des enfants de 13 ans, des enfants de 12 ans, ça n'a pas de bon sens qu'ils travaillent à cet âge-là, tout ça. Mais sauf qu'on n'a pas assez exploité aussi le côté de voir qu'est-ce que ça leur apporte à eux aussi de travailler. C'est les bienfaits que ça fait, l'autonomie que ça leur apporte, de créer des liens aussi au travail, les responsabiliser, tout ça. Donc, je pense que c'est un point important à mentionner. Puis je trouvais ça quand même assez dommage et triste et aussi un peu pathétique que Léo perde son emploi en plein milieu de l'été, qu'il perde un peu tous les buts qui s'étaient fixés justement en travaillant cet été.
Qu'est-ce que vous avez vu comme changement chez votre fils depuis qu'il travaille, Vincent?
La confiance en lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de confiance en lui, puis aussi la responsabilisation aussi. Tu sais, il y avait l'école, tout ça, tu sais, on crée des liens à l'école, des trucs comme ça. Après ça, on passe les fins de semaine à la maison, on voit des amis, tout ça. Mais c'était de sortir aussi de cette routine-là. Tu sais, travailler, ce que ça y a apporté, c'est énormément d'autonomie. Puis aussi de pouvoir se mettre des sous de côté, de se permettre de se dire, ah, tu sais, j'ai envie de faire du vélo de montagne, tout ça. Moi, on n'a pas nécessairement les moyens non plus de rééquiper tout le temps nos enfants aussi pour qu'ils fassent des sports, des trucs comme ça. On s'entend que c'est rendu excessivement cher aussi. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est en travaillant un petit peu, il a réussi à se mettre des sous de côté justement pour s'acheter son premier vélo. Ça a été une super fierté pour lui. Puis en entrant au secondaire aussi, en travaillant, il avait déjà gagné, en travaillant l'été d'avant, une espèce de confiance en lui que je suis pas sûr que ça serait déroulé de la même façon à l'entrée à l'école s'il n'y avait pas travaillé, tu sais, du contact avec les gens, de saisir les gens aussi, tu sais, en travaillant au public, là.
OK. Vincent Roy, je vais me tourner vers votre fils. Salut, Léo.
Salut, ça va bien?
Oui, toi aussi, j'espère. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à l'épicerie?
Ben moi, je fais plusieurs choses, mais quand j'ai commencé, j'avais eu ma formation à la caisse. Donc, ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes, ce qui est très plaisant aussi. Puis là, c'est rendu que je fais un peu tout, parce que, ben c'est ça, justement, il y a plusieurs personnes. Des fois, on est trop sur le plancher, donc je m'en vais dans les autres sections aider les autres. Fait que c'est un peu ça.
Ça fait combien de temps que tu travailles là, à cette épicerie, Léo?
Environ un an. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, l'été dernier, justement, parce que c'était mon intention de m'occuper, de connaître d'autres mondes, puis de m'amasser des sous.
Donc, l'été passé, tu travaillais combien d'heures par semaine?
Entre 15 et 25.
Et pendant l'année scolaire, là, qui est en train de s'achever, tu travaillais en moyenne combien d'heures par semaine?
Ah, oh, 3 à 6 heures.
OK, pas plus que ça, là.
Pas plus, non.
Est-ce que ton employeur aurait voulu que tu fasses plus d'heures que ça?
Ben non, parce que justement, quand je lui ai dit que je travaille durant l'année scolaire, mais je préfère me concentrer sur mes études. Donc, 3-6 heures.
Puis tu travailles, c'est quoi ton horaire? Ça doit être la fin de semaine, j'imagine?
Oui, je travaille pas la semaine.
Qu'est-ce que tu fais avec les sous que tu gagnes?
Ben souvent, je l'économise, mais quand, mettons, je veux m'acheter justement pour l'équipement de ski de cette année, de l'année prochaine, je voulais économiser pour ça, mon vélo, c'est un peu ça, j'économise, quand je vois des occasions, je les prends, mais je réfléchis avant de les dépenser.
Là, avec le projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale, là, si je comprends bien, tu pourras plus continuer à travailler.
Non, je pourrai plus.
Est-ce que tu as eu des discussions à ce sujet-là avec tes patrons à l'épicerie?
Pas tant, mais justement, je lui ai appelé quand j'ai vu que la loi était appliquée. Puis elle m'a dit justement que je finissais le 7 juillet. Je l'ai revue au travail samedi dernier. Puis elle m'a dit que justement, elle n'avait pas le choix. Donc, elle me reprendrait quand j'aurai mes 14 ans.
À quel moment tu vas avoir 14 ans?
En janvier, 18 janvier.
Comment tu te sens par rapport à cette loi-là qui t'interdit de travailler là pour les 6 prochains mois?
Je suis un peu déçue, je l'avoue, puisque justement, ça m'a donné des buts, ça me permet de rencontrer d'autres gens, comme les buts justement, amasser les sous, me dire cet été je fais ça, justement, pour pas justement rester juste dans ma chambre à gamer ou rien faire et m'ennuyer.
Léo, est-ce que tu comprends, par contre, qu'il y a eu des cas où il y a des jeunes de ton âge là qui ont pu être exploités ou exposés, disons, à des situations dangereuses?
Oui, je le comprends totalement. J'en ai parlé beaucoup avec mes parents, même.
Fait que tu comprends qu'est-ce qui a mené la réflexion qui a mené à cette loi-là?
Oui, totalement.
Mais tu penses que peut-être ça ratisse trop large?
Ben moi, d'après mon avis, vraiment juste mon avis, je dirais qu'on mette une... disons, comme des heures minimales, maximales. Mm. Comme par exemple, justement, comme admettons 15 à 16, c'était 14 à 16 ans, c'était 17 heures. On pourrait faire pareil, mais avec un accord de parents, par exemple.
Oui. OK. Si tu permets, Léo, je vais recommencer à parler avec ton père pendant une seconde ou deux. Là. Vincent Roy,
oui.
Vous comprenez, j'ai posé la question à votre fils, il y a quand même des cas extrêmes qui ont suscité des réflexions au Québec sur le fait que des jeunes qui travaillent, qui sont jeunes, qui manquent de l'école ou qui sont pas aussi attentifs à l'école qu'ils devraient l'être, qui sont exposés à des situations dangereuses, cette loi-là répondait quand même à un besoin.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. T'sais, je pense qu'il y a eu des... T'sais, aussi, quand on parle des domaines de la restauration, des longues heures, de finir tard le soir, des trucs comme ça, c'est quand même... Je viens du milieu de la restauration, je sais c'est quoi. T'sais. Mais je trouve que ça a été mis vraiment d'une façon comme très radicale aussi de tout couper, parce que je pense qu'on n'a pas vu aussi les autres côtés, comme je disais un peu au début de l'entrevue, de voir aussi le bienfait que ça peut amener aussi. Il n'y a pas juste du négatif, tu sais. Il y a comme, faut couper la poire en deux un petit peu là-dessus, là.
Vincent, vous m'avez écrit de la place des écrans dans la vie des enfants, des adolescents. Expliquez aux gens qui nous écoutent la crainte que vous avez par rapport justement aux écrans. Dans le contexte où il y a des jeunes qui vont se faire couper leurs heures au travail?
Ben, tu sais, en fait, le travail, c'est ça. Bon, ça les occupe, ça les sort des écrans. Ça arrive. Le danger avec les écrans, c'est que c'est facile aussi pour un jeune que sont rendus à l'âge de se garder tout seul à la maison. Donc, nous, en tant que parents, on va travailler. On ne sera pas à la maison durant la journée. On peut donner des tâches à faire, exemple, faire le ménage, des trucs comme ça. Mais tu sais, si on parle d'à peu près une heure dans la journée, c'est beau. Donc, là, le reste du temps, tu sais, souvent, ils vont être plus portés justement à être devant l'écran. Puis, je suis d'accord, ils jouent avec leurs amis à ça. Les jeux vidéo, c'est plus ce que c'était. Ils ont un cercle social là-dedans. C'est super le fun. Sauf que nous, en restant aussi, bon, à la campagne, du coup, on est plus éloigné des gens aussi. Donc, la facilité d'aller dans la chambre, de jouer aux jeux vidéo beaucoup plus, est vraiment là, surtout l'été, si on n'est pas là nécessairement pour faire toujours les transports, pour faire les s'en occuper, puis les... s'en occuper.
Je comprends. Le temps que ces jeunes-là vont pas travailler, ce que vous pensez, c'est qu'ils vont sombrer dans les écrans.
Ben plus qu'avant, tu sais, c'est okay. oui sûrement. Puis tu sais, je pense que rendu à entre 12, 13, 14 ans, tu sais, j'ai regardé aussi les commentaires avant d'écrire des trucs comme ça, tu sais, les deux côtés de la médaille, tu sais, puis qu'on disait, tu sais, un enfant de 12, 13 ans doit profiter, rire, jouer dehors et profiter de la vie, tout ça, tu sais, mais c'est l'époque change aussi, ils sont rendus à un stade qui veulent justement plus d'autonomie. Puis de pouvoir justement s'acheter des choses, se responsabiliser, se sentir utile aussi à quelque chose. Tu sais.
OK, Léo.
C'est ce que le trouve qu'il apporte.
Léo, je te donne le mot de la fin, jeune homme. Est-ce que tu as un message pour le ministre Jean Boulay, le ministre du Travail?
En fait, mon message, c'est que justement, comme je disais tantôt, j'aimerais que les jeunes qui veulent travailler puissent continuer, puisque justement, moi, avant que je travaille, j'étais beaucoup sur les écrans. J'étais toujours, on va dire, dans ma bulle. Puis là, j'ai commencé, c'était vraiment beaucoup un cercle social. J'étais souvent en train de parler à des gens. Je suis vraiment devenue plus sociale. Donc, il y a vraiment des jeunes qui ont un côté positif avec le travail, mais qui en ont avec le côté négatif aussi.
Merci à vous deux. Merci pour ces explications. Ben écoute, Léo, on te souhaite un bon retour au travail en janvier 2024.
Ben parfait, un gros merci.
Salut, c'était Vincent Roy et son fils Léo Gendron-Roy, 13 ans, qui nous expliquait pourquoi peut-être la loi de Jean Boulay là, sur le travail des enfants ratiste à leur avis. Peut-être un petit peu trop large.
Le Québec maintenant.
Ce dont j'ai besoin, c'est d'un miracle. C'est une chanson de Mike and the Mechanics et je ne pense pas que Liliane Noyer a eu le temps de se poser cette question-là le 10 août 2019 quand son parachute refusait de s'ouvrir. Elle est en studio pour nous raconter son histoire incroyable. Liliane, salut.
Bonjour.
Liliane, le 10 août 2019, saut en parachute, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'en étais à mon troisième saut de la journée lors de cette journée et... Lors de mon saut de parachute, il s'est mal déclenché et le parachute d'urgence, il s'est déclenché mais en petite boule. En fait, j'ai pas eu vraiment de parachute en haut de la tête et de fonctionnel. Et puis j'ai atterri dans les sapins et ensuite sur le sol. Et puis je me suis réveillée une semaine plus tard. J'ai vécu un coma qui était un coma qui était assisté.
Oui, médicalement, oui. Les médecins l'ont provoqué.
C'est ça, exactement. Ensuite, j'ai été dans un vrai coma. Puis, c'est ça. Je me suis réveillée une semaine plus tard à l'hôpital sur un lit.
OK. Liliane, si vous permettez, on va décortiquer, parce que là, vous me lancez ces informations-là. Je pense que ça fait un peu abstraction du miracle dont vous avez bénéficié. Oui. Donc, c'était votre troisième saut en parachute. C'était-tu la première fois que vous faisiez du parachute cette journée-là?
Non, c'est ça. C'était mon troisième saut de parachute lors de cette journée. Mais en fait, moi, j'ai 48 sauts à mon actif. Okay. J'étais licenciée parachutiste et c'était ma deuxième année de parachutiste.
Fait que pour vous, c'était comme presque impossible qu'un parachute n'ouvre pas. Mmh.
Ça arrive jamais, ça.
Ben en fait, c'était la première fois que ça m'arrivait lors de mes sauts en parachute. Puis, c'est ça.
Okay. Avez-vous un souvenir?
J'ai un souvenir un peu bref de cette journée, ouais. De ce moment. Puis je me souviens un peu de qu'est-ce qui s'était passé dans le moment présent, mais
c'est okay. Flou. Hein.
Quand vous sautez et que là le premier parachute ouvre pas, bon, vous avez plusieurs sauts à votre actif, vous vous dites le parachute de secours va ouvrir. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez compris que le deuxième ouvrait pas non plus?
Ben, en fait, il a ouvert, mais en dernier. Okay. Puis, c'est ça, il a ouvert en petite boule. C'est pas déclenché automatiquement. Mais je sentais que j'allais vraiment, vraiment vite dans le ciel. Parce que, bien sûr, le parachute, ça ralentit beaucoup la chute. Puis, je me souviens d'avoir fait une mini prière, le temps de dire...
OK, vous avez eu le temps de faire ça.
Dans ma tête, j'ai demandé à Dieu que j'étais pas prête à mourir. Puis, c'est ça, je me suis réveillée quelques semaines.
OK, là l'avion vous fait sauter. Racontez comment, où était placé le sapin. C'était pas une forêt de sapins qui était là?
Ben en fait, c'est pas une forêt de sapins, mais en fait, dans ma direction, où ce que j'ai atterri, heureusement, il y avait des arbres. Je peux pas dire que c'était un sapin parce que c'était une forêt. Je me souviens plus de la suite des choses, mais je sais que j'ai atterri dans les arbres et ensuite à terre. C'est ce qu'on m'a mentionné.
Mais vous avez été chanceuse, Liliane, d'atterrir là où il y avait des arbres, si je comprends bien.
Exactement.
Ça a ralenti la chute, dans le fond.
Oui, ça a ralenti la chute, effectivement. Et ensuite, j'ai tombé sur le sol qui est un peu avec du lichen. Puis le fait que ça soit un peu spongieux, ça m'a vraiment aidé à amortir le choc. Puis j'ai eu de la chance aussi. Dieu m'a accompagné dans tout ça.
Vous pensez qu'il y a une raison supérieure qui vous a aidé, là?
Ouais. C'est une miraculée, là, pour vous, là.
Oui, bien, c'est sûr. Ouais. Oui.
Parce que d'habitude...
On meurt de ça, là.
Oui, j'ai beaucoup de chance, effectivement. Parlez-moi. J'ai gagné à la loterie.
Oui,
vraiment. On est content de vous avoir ici.
J'espère que vous êtes allé acheter un 649 après.
Non, mais pour moi, c'est encore plus précieux qu'un 649.
C'est toute la vie,
Racontez-moi le moment où vous vous êtes réveillé. Vous avez les premiers instants où vous avez eu conscience de ce qui vous était arrivé.
Lorsque j'étais à l'hôpital, je me suis réveillée dans mon lit et j'ai voulu me lever brusquement et le médecin m'a pris tout de suite puis m'a tout de suite mis sur le lit parce qu'en fait ma colonne vertébrale était fracturée et j'avais aussi des vertèbres qui étaient éclatées et comme j'avais pas de corset thérapeutique si je me serais levée trop vite ma colonne elle aurait pu
briser.
Vous auriez été quadriplégique dans le fond.
Ouais, exactement. J'ai passé tout près d'être quadriplégique et de pas avoir de corset si je me serait levé trop vite à ce moment-là, ça aurait pu causer des problématiques comme ça.
Là, je compte, ça fait 4 ans. Est-ce que vous avez des séquelles? Quelles séquelles? Parce que là, vous êtes venu ici sur vos pattes, puis tout.
Oui.
Si je le sais pas, là, ça paraît pas. Qu'est-ce que vous avez comme séquelles?
La séquelle la plus importante, c'est que j'ai eu une craniotomie. On m'a enlevé un bout de crâne, le côté droit. Puis aujourd'hui, j'ai comme une cicatrice de ça.
Okay.
Puis le volet osseux était à temps de vie. Puis ça fait en sorte que il y a des sports que je ne pourrais plus jamais faire. Comme moi, j'ai mes cartes de plongée sous-marine et je ne pourrais plus jamais faire de plongée. J'ai un traumatisme crânien sévère qui peut nuire des fois à la résistance à vouloir être vraiment dans le moment présent. Mm-hmm. Des fois, genre, c'est ça. Puis sinon, j'ai eu des vertèbres de fracturées. À la colonne vertébrale, il a fallu que je fasse la réadaptation, que je prenne le temps pour ça. Et j'ai eu aussi la rate... La rate a un problème, c'est ça qui a éclaté.
Ouais. OK, puis votre réhabilitation, comment ça s'est passé? Parce que physiquement, il y avait beaucoup, disons, de morceaux à réparer, là, je comprends bien.
Oui, la réadaptation, en fait, j'étais suivie par toutes les spécialistes, par une ergothérapeute, par une physio, par une orthophoniste.
Faire parler.
J'étais aussi... j'ai tous les spécialistes, en fait, qui m'accompagnaient là-dedans, dans mon cheminement. Et puis, j'ai dû y aller progressivement. Puis c'est ça, en fait, je me souviens que la physiothérapeute me demandait à faire des exercices qui étaient quand même assez minimes. Puis moi, je refusais de les faire parce que je sentais que j'avais des douleurs. Je disais à la physio de pas continuer. Fait que j'ai vraiment pris attention à m'écouter avant tout.
Est-ce que, Liliane, vous voyez, est-ce que j'ai compris que là, vous avez récemment fait un triathlon?
Exactement, oui.
Ben voyons donc, pourquoi se mettre à risque comme ça?
Ben aujourd'hui, je me sens en forme, puis je sentais que j'avais le goût de faire des épreuves comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Puis je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour les autres, pour leur donner envie de ne pas abandonner, puis de croire en leur rêve. Puis que parce que pour moi, ça me fait grandir, puis ça me fait rendre forte.
Est-ce que vous faisiez des triathlons avant l'accident de parachute?
Avant, non. Je faisais pas des triathlons. Triathlon, c'est nouveau dans ma vie. Par contre, j'ai déjà fait des compétitions de course à pied. C'était quelque chose qui me passionnait, ouais. La course à pied.
Mais le triathlon, quoi, c'est une sorte de, comment je dirais, c'est une sorte, pour vous, il y a une symbolique là-dedans. Là. C'est de, vous vouliez vous prouver que vous étiez capable de faire ça après l'accident de parachute.
Oui, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable. Puis aussi, il y a quelques années, j'ai fait une bucket list de choses à faire avant de mourir.
Okay. Et, comme quoi, on peut se vous demander?
Comme un triathlon. Okay. Puis,
ça, c'est fait?
Là, je l'ai faite maintenant, mais je l'avais écrit cette bucket list avant mon accident, donc... T'sais, j'ai réalisé quelque chose que je n'ai pu faire dans mon vivant encore aujourd'hui. Là.
Quoi d'autre qu'on trouve dans votre liste de choses à faire?
J'aimerais faire de l'alpiniste un jour.
Ah, oui.
Pouvez-vous le faire avec ce que vous avez vu comme blessure
à la
tête?
Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne avant de m'aventurer dans ce genre de périple.
Quoi d'autre?
Pas ressauter en parachute, j'espère.
Non, j'espère que non.
Non, je pense pas faire ça, non. j'ai d'autres projets. Et j'aimerais faire un tour de voilier... sur l'Atlantique, des trucs comme ça.
Pour le parachutisme, est-ce que ça vous a effrayé au point de ne pas vouloir en refaire?
Je dirais pas ça. J'y ai pensé quelques fois d'en refaire, mais je pense que c'est pas le moment présent. Puis je vais focusser sur d'autres objectifs, puis d'autres rêves pour l'instant.
Comment ça a changé votre vision de la vie, cet accident-là, de vraiment frôler la mort comme ça?
Je dirais pas que ça a vraiment changé ma vie. Des fois, j'en suis pas consciente, mais je ressens que je suis beaucoup plus empathique envers les autres humains qui vivent des situations comme justement un handicap ou des situations délicates, parce que je me sens beaucoup plus altruiste. Puis j'aimerais beaucoup aider ces gens-là justement à savoir qu'ils sont capables de faire des trucs.
La plus grande séquelle avec laquelle vous vivez, Liliane, de cet accident de parachutisme, c'est quoi?
Actuellement, c'est le traumatisme crânien. Puis aussi, j'ai perdu énormément d'estime personnelle. J'avais quand même l'estime, puis ça m'a pris quelques temps. Maintenant, j'en ai un peu plus qu'avant. Disons qu'en 2019, après mon accident, mais ça m'a pris quelques années. Même encore aujourd'hui, je me dévalorise beaucoup. Je me sens moins compétente dans mon...
Et pourtant, là, je vous trouve incroyable.
T'es un modèle, là.
Je suis figée à vous écouter parler. Je trouve que, au contraire, vous devriez vous valoriser. Ouais. Vous avez passé au travers d'un drame qui est incroyable, là, cette rémission-là. Vous n'avez plus mal du tout les os. Il n'y a rien qui est resté endommagé pour faire justement de la course ou du triathlon?
Actuellement, non. Cet été, dernièrement, je me suis entraînée. J'avais pas de douleur. C'est sûr que... C'est n'importe quel humain qui va s'entraîner beaucoup, il va être fatigué physiquement, mais je ne sens pas que c'est quelque chose de supplément. Par contre, l'année passée, il y a un an, je ressentais, mettons, quand que je m'entraînais, j'essayais de m'entraîner, parfois j'avais des petites douleurs encore au dos. C'était bénigne, mais ça s'en va d'une année à l'autre, alors je suis vraiment contente.
Tu vois, on est les trois devant toi, puis on est impressionnés. Là. Un, il faut que ça, tu crois ça. Et deux, est-ce que tu es au courant que tu es à peu près un des seuls êtres humains dans l'histoire de l'humanité à avoir survécu à ce que tu as vécu? Est-ce que tu es consciente de ça?
J'ai fait quelques recherches, puis je suis pas la seule.
OK. Une des seules.
Une des seules, peut-être. Mais c'est ça. Je suis vraiment...
Déjà ça, il faut que tu sois un être humain exceptionnel.
C'est vrai, effectivement.
Prends-le.
Liliane, vous avez dit, j'ai eu le temps de faire une prière.
Mais pas une prière, mais j'ai dit...
Vous êtes adressé à votre créateur.
Exactement, oui.
OK. Pensez-vous que vous alliez mourir?
C'est sûr que je vais mourir un jour, oui.
Non, pensez-vous que vous alliez mourir à ce moment-là?
J'avais aucune idée.
OK.
J'ai juste demandé, je me sentais pas prête.
Et avez-vous eu conscience que vous aviez frappé un arbre, que votre chute était amortie par un arbre?
Non. Non,
la
fin...
Ça s'est passé trop vite?
J'ai pas de souvenir de la fin de cet accident-là.
Mais vous êtes peut-être évanouie aussi en tombant.
Ouais.
Ce qui aurait rendu votre corps plus mou aussi.
Espérons, oui. Ça doit être pour ça que tout est arrivé. Là.
Il y a un auditeur qui me demande si vous étiez croyante avant l'accident.
En fait, moi, je suis croyante depuis quelques années. Je suis croyante depuis quelques années. Puis justement, c'est ça, d'être positif, on dirait que ça s'accorde avec la croyance. Là. Puis c'est ça.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite?
Je souhaite accomplir plein de choses dans ma vie, d'être positive, puis d'avoir foi en mes rêves parce que j'ai pu réaliser quelque chose de beau. Puis C'est ça.
Ben, c'est quelque chose de beau que vous nous avez raconté. Merci vraiment d'avoir été avec nous, Liliane.
Quelle persévérance, bravo.
C'était belle nouvelle vie.
Oui, belle nouvelle vie. C'était Liliane Loyer en 2019. Elle a survécu à un accident de parachute. Son parachute ne s'est pas ouvert, chute amortie par des arbres et par le sol spongieux. Par chance, longue réhabilitation. Bonne chance pour tout.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.